Une mutinerie, c'est une révolte. Une rébellion contre l'autorité. Hein? Un mutin, c'est une personne en révolte contre l'autorité établie.
Allez, debout là-dedans.
Monsieur Crosso.
Debout là-dedans, bordel. Allez, debout là-dedans.
Monsieur Crosso, bordel.
Allez, debout. Debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealer. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Allez, debout. Debout là-dedans. Motive tes troupes. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers. Qu'on veut pas de militaires, que des militants.
Les plus sceptiques, maraboutelés. Les plus réfractaires, contaminés. Fais le forcing, sort la tiraille, sort les munitions, l'artillerie. Braquer les camps sur des positions. Bouge-les, comme un MK, bouge les défenses. Réveille-les, comme Zizou, réveille le stade de France. Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met la fière. Ce soir, on vous met dans la tête une idée révolutionnaire. Haïti à coup de ghetto blaster. Message de paix de Buenos Aires à Ramallah. Tous solidaires de Dakar à Jakarta. Faire péter les watts comme un acte humanitaire. Pour nos voisins, nos cousins, nos petits frères. Pour les nôtres, pour nos quartiers populaires. Réveille-les et dis-leur c'est salutaire.
Debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp. Dealer, qu'on veut pas de commentaires, que des combattants. Dealer, qu'on veut pas de militaires, que des militants. Et debout.
Eh ben salut, c'est le retour des mutins mutines, j'espère qu'on nous entend bien. Bah voilà, on est revenu après deux semaines d'absence, on avait décidé de prendre des petites vacances. Voilà, je suis un peu essoufflé parce que j'ai couru. Enfin, c'est pas les meilleures conditions pour faire une émission de radio. Du coup je vais laisser la parole un peu à mes petits camarades qui vont présenter le principe de l'émission d'aujourd'hui.
Eh ben aujourd'hui, vu qu'on est en période électorale, on va faire comme tout le monde, on va parler des élections. En même temps, peut-être essayer de faire un truc un peu plus original, dire un petit peu ce qu'on a sur le cœur aussi, puisque ça fait un petit bout de temps qu'on se fait grésiller les oreilles et les yeux avec ces élections et tout ça. Puis voir, du coup, on va lire quelques textes, écouter quelques musiques et puis voilà, je sais pas. Et
puis causer aussi, on aura des gens au téléphone qui font des trucs par rapport à ça. Enfin, vous verrez des petites surprises, quoi. Enfin, bref, aujourd'hui, on évacue, quoi. Je sais pas si vous avez compris voilà. Le principe.
Dans le jingle, un peu se bouger là-dedans, quoi, se réveiller un petit peu, histoire que ce soit pas la catastrophe.
Bon, c'est parti. On commence par s'écouter une zik. C'est parti.
Also jetzt ein Lied von den Slits, Number One Enemy. Du wirst mein erster Fan sein.
You said up and it's only my future. What the fuck do you think you are? Changing buses or raising taxes. Changing things as you please. You want me to take part of it like all the people did. You want to swallow me. But you might get in the chest because I'm gonna be your number one enemy. You're for the hell of it. I wanna be your number one enemy. You're for the hell of it. If you like white, I'll be black. If you like black, I'll be yellow. If you like rational, I'll be impossible. If you like reasonable, I'll be insane. If you like peas and flowers, I'm gonna carry knives and chains. I'm gonna be your number one enemy. All for the hell of it. I'm gonna be your number one enemy. All for the, all for the hell of it. Give me 10 and I take 100. Give me 100, I need thousands. Never mind what you say. Never mind what people think. Don't try to be nice to me, cause I'm the enemy. Don't be in flat support, cause I'm gonna kill. I'm gonna be your number one enemy. All for the hell of me. I'm gonna be your number one enemy. You're for the hell of me.
Ouais, bah voilà, on est de retour dans le studio des Mutants Mutines. Donc c'était The Slits, Number One Enemy. voilà, un petit groupe de punk des années 70 d'Angleterre. Donc bah, ce soir en fait comme on l'a un peu dit, on va parler du vote, on va s'interroger sur le sens du vote, sur le sens de ce mot démocratie tel qu'on peut le voir à l'œuvre aujourd'hui. Voilà, en fait ça fait suite à une émission qu'on avait fait il y a 3 semaines qui avait lancé un peu un cycle sur ce thème-là avec Chris, où on était parti un peu sur les à partir des machines à voter qui sont introduites là à Brest en ce moment, qui posent pas mal de problèmes sur comment on vote aujourd'hui et sur le sens du vote quoi d'une manière générale. Du coup on est arrivé à une réflexion sur mais au fait pourquoi voter et quel système politique on veut vraiment et du coup bah aujourd'hui on avait décidé de poursuivre un peu cette réflexion là parce que bah il est temps là. Donc on va commencer tout de suite par la lecture de quelques textes. Il y a Pierre Guillaume qui va nous lire un texte voilà, qui s'appelle
Le criminel, c'est l'électeur. Certains l'ont déjà entendu, mais bon, c'est toujours aussi intéressant. Voilà, il faut bien resituer dans le contexte.
En fait, on va changer de texte.
Ouais, alors, on s'est dit que, bon, si jamais vous voulez le réécouter,
voilà, parce
c'est
que celui-là,
sur notre site.
Voilà, mais il est sur notre site, celui-là. Alors, si vous voulez entendre le texte qui s'appelle « Le criminel, c'est l'électeur » écrit par Albert Libertad en 1906, bah, vous pouvez aller sur le site, sur notre site, du coup, on va donner l'adresse au passage, qui s'appelle mutin, au pluriel, tiret, mutine, au pluriel, point C, point là. Mutin, point C, point là. Et vous écoutez de l'émission d'il y a 3 semaines, et puis, il y a une lecture du texte dedans. Du coup, aujourd'hui, on va avancer un peu dans la réflexion. Et là, c'est un autre texte. En fait, que Pierre Guillaume va nous lire. Oui. Voilà.
C'est la grève des électeurs de Octave Mirbeau. Une chose m'étonne prodigieusement, j'oserais dire qu'elle me stupéfie. C'est qu'à l'heure scientifique où j'écris, après les innombrables expériences, après les scandales journaliers, il puisse exister encore dans notre chère France, comme ils disent à la commission du budget, un électeur, un seul électeur, cet animal irrationnel, inorganique, hallucinant, qui consent à se déranger de ses affaires, de ses rêves ou de ses plaisirs, pour voter en faveur de quelqu'un ou de quelque chose. Quand on réfléchit un seul instant, ce surprenant phénomène n'est-il pas fait pour dérouter les philosophies les plus subtiles et confondre la raison? Où est-il le Balzac qui nous donnera la physiologie de l'électeur moderne et le Charcot qui nous expliquera l'anatomie et les mentalités de cet incurable dément? Nous l'attendons. Je comprends qu'un escroc trouve toujours des actionnaires, la censure des défenseurs, l'opéra comique des dilettantis, le constitutionnel des abonnés, Monsieur Carnot des peintres qui célèbre sa triomphale virgile d'entrée dans une cité languedocienne. Je comprends, Monsieur Chantavoine s'obstinant à chercher des rimes, je comprends tout. Mais qu'un député, ou un sénateur, ou un président de République, ou n'importe lequel parmi tous les étranges farceurs qui réclament une fonction élective, quelle qu'elle soit, trouve un électeur, c'est-à-dire l'être irrêvé, le martyr improbable, qui vous nourrit de son pain, vous vêt de sa laine, vous engraisse de sa chair, vous enrichit de son argent, avec la seule perspective de recevoir, en échange de ses prodigalités, des coups de trique sur la nuque, des coups de pied au derrière, quand ce n'est pas des coups de fusil dans la poitrine. En vérité, cela dépasse les notions déjà pas mal pessimistes que je m'étais faites jusqu'ici de la sottise humaine, en général, et de la sottise française en particulier, notre chère et immortelle sottise, ô Chauvin. Il est bien entendu que je parle ici de l'électeur averti, convaincu, de l'électeur théoricien, de celui qui s'imagine, le pauvre diable, faire acte de citoyen libre, étaler sa souveraineté, exprimer ses opinions, imposer, ô folie admirable et déconcertante, des programmes politiques et des revendications sociales. Et non point de l'électeur qui la connaît et qui s'en moque, de celui qui ne voit dans les résultats de sa toute-puissance qu'une rigolade à la charcuterie monarchiste ou une ribote au vin républicain. Sa souveraineté à celui-là, c'est de se pocharder aux frais du suffrage universel. Il est dans le vrai, car cela seul lui importe, et il n'a cure du reste. Il sait ce qu'il fait, mais les autres... Ah oui, les autres, les sérieux, les austères, les peuples souverains, ceux-là qui sentent une ivresse les gagner lorsqu'ils se regardent et se disent « Je suis électeur !» Rien ne se fait que par moi, je suis la base de la société moderne. Par ma volonté, Floch fait des lois auxquelles sont astreints 36 millions d'hommes, et Baudry Dasson aussi, et Pierre Alip également. Comment y en a-t-il encore de cet acabit? Comment, si entêtés, si orgueilleux, si paradoxaux qu'ils soient, n'ont-ils pas été depuis longtemps découragés et honteux de leurs œuvres? Comment peut-il arriver qu'ils se rencontrent quelque part, même dans le fond des landes perdues de la Bretagne, même dans les inaccessibles cavernes des Cévennes et des Pyrénées, un bonhomme assez stupide, assez déraisonnable, assez aveugle à ce qui se voit, assez sourd à ce qui se dit, pour voter bleu, blanc ou rouge, ce que rien n'y l'oblige, sans qu'on le paye ou sans qu'on le saoule. À quel sentiment baroque, à quelle mystérieuse suggestion peut bien obéir ce bipède pensant, doué d'une volonté, à ce qu'on prétend et qui s'en va fier de son droit, assuré qu'il accomplit un devoir, déposé dans une boîte électorale, quelconque, un quelconque bulletin, peu importe le nom qu'il est écrit dessus. Qu'est-ce qu'il doit bien se dire en dedans de soi, qui justifie ou seulement, qui explique cet acte extravagant? Qu'est-ce qu'il espère? Car enfin, pour consentir à se donner des maîtres avides qui le grugent et qui l'assomment, il faut qu'il se dise et qu'il espère quelque chose d'extraordinaire que nous ne soupçonnons pas. Il faut que, par de puissantes déviations cérébrales, les idées de député correspondent en lui à des idées de science, de justice, de dévouement, de travail et de probité. Il faut que dans les noms seuls de Barbe et de Bayot, non moins que dans ceux de Rouvier et de Wilson, il découvre une magie spéciale et qu'il voit, au travers d'un mirage, fleurir et s'épanouir dans Vergoin et dans Hubbard des promesses de bonheur futur et de soulagement immédiat. Et c'est cela qui est véritablement effrayant. Rien ne lui sert de leçon, ni les comédies les plus burlesques, ni les plus sinistres tragédies. Voilà pourtant de longs siècles que le monde dure, que les sociétés se déroulent et se succèdent, pareilles les unes aux autres, qu'un fait unique domine toutes les histoires. La protection aux grands, l'écrasement aux petits. Il ne peut arriver à comprendre qu'il n'a qu'une raison d'être historique, c'est de payer pour un tas de choses dont il ne jouira jamais et de mourir pour des combinaisons politiques qui ne le regardent point. Que lui importe que ce soit Pierre ou Jean qui lui demande son argent et qui lui prenne la vie, puisqu'il est obligé de se dépouiller de l'un et de donner l'autre? Eh bien non! Entre ces voleurs et ces bourreaux, il a des préférences et il vote pour les plus rapaces et les plus féroces. Il a voté hier, il votera demain, il votera toujours. Les moutons vont à l'abattoir. Ils ne se disent rien, eux, et ils n'espèrent rien. Mais du moins, ils ne votent pas pour le boucher qui les tuera, et pour le bourgeois qui les mangera. Plus bête que les bêtes, plus moutonnier que les moutons, l'électeur nomme son boucher et choisit son bourgeois. Il a fait des révolutions pour conquérir ce droit. Ô bon électeur, inexprimable imbécile, pauvre R, si, au lieu de te laisser prendre aux rengaines absurdes que te débitent chaque matin, pour un sou, les journaux, grands ou petits, bleus ou noirs, blancs ou rouges, et qui sont payés pour avoir ta peau, si, au lieu de croire aux chimériques flatteries dont on caresse ta vanité, dont on entoure ta lamentable souveraineté en guenille, si, au lieu de t'arrêter, éternel badaud, devant les lourdes du prix des programmes, si tu lisais parfois au coin du feu Schopenhauer et Max Nordau, deux philosophes qui en savent long sur tes maîtres et sur toi, peut-être apprendrais-tu des choses étonnantes et utiles. Peut-être aussi, après les avoir lus, serais-tu moins empressé à revêtir ton air grave et ta belle redingote, à courir ensuite vers les urnes aux homicides, ou quelque nom que tu mettes, tu mets d'avance le nom de ton plus mortel ennemi. Il te dirait, en connaisseur d'humanité, que la politique est un abominable mensonge, que tout y est à l'envers du bon sens, de la justice et du droit, et que tu n'as rien à y voir, toi dont le compte est réglé au grand livre des destinées humaines. Rêve après cela, si tu veux, des paradis de lumière et de parfum, des fraternités impossibles, des bonheurs irréels. C'est bon de rêver, et cela calme la souffrance. Mais ne mêle jamais l'homme à ton rêve, car là où est l'homme, là est la douleur, la haine et le meurtre. Surtout, souviens-toi que l'homme qui sollicite tes suffrages est, de ce fait, un malhonnête homme, parce qu'en échange de la situation et de la fortune où tu le pousses, il te promet un tas de choses merveilleuses qu'il ne te donnera pas et qu'il n'est pas d'ailleurs en son pouvoir de te donner. L'homme que tu élèves ne représente ni ta misère, ni tes aspirations, ni rien de toi. Il ne représente que ses propres passions et ses propres intérêts, lesquels sont contraires aux tiens. Pour te réconforter et ranimer des espérances qui seraient vite déçues, ne va pas t'imaginer que le spectacle navrant auquel tu assistes aujourd'hui est particulier à une époque ou à un régime, et que cela passera. Toutes les époques se valent, et aussi tous les régimes, c'est-à-dire qu'ils ne valent rien. Donc, rentre chez toi, bonhomme, et fais la grève du suffrage universel. Tu n'as rien à y perdre, je t'en réponds, et cela pourra t'amuser quelque temps. Sur le seuil de ta porte, fermé aux quémandeurs d'aumônes politiques, tu regarderas défiler la bagarre en fumant silencieusement ta pipe. Et s'il existe en un endroit ignoré un honnête homme capable de te gouverner et de t'aimer, ne le regrette pas. Il serait trop jaloux de sa dignité pour se mêler à la lutte fangeuse des partis, trop fier pour tenir de toi un mandat que tu n'accordes jamais qu'à l'audace cynique, à l'insulte et au mensonge. Je te l'ai dit, bonhomme, rentre chez toi et fais la grève.
Ben bravo, merci Pierre-Guillaume.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
À expier nos doutes, nos envies, enfin voilà, exprimer en tout cas. Voilà, donc on a lu un texte, je sais pas qui le présente.
Bah, moi, du coup, pas... en fait, c'est le texte que Pierre Guillaume nous a lu, s'appelle La grève des électeurs. Il est écrit par Octave Mirbeau, qui est un auteur du 19e siècle. En fait, il a été publié en 1888, et devinez où ? Dans le Figaro. Et oui, donc ils ont fait du chemin depuis. Hein. Ils appartenaient pas à Dassault à l'époque. Voilà. Donc en fait, je sais pas si vous avez entendu, mais bon, c'est un texte qui est assez assez fort et assez violent, qui crache un peu son venin, ouais, qui bourrine un peu sur le système de l'époque, et on peut reconnaître à peu près le système actuel, quoi. Finalement, on change les noms et comme par hasard, ça ressemble vachement à ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, nous en fait ça c'était un peu une introduction. Nous ce qu'on voudrait dans cette émission c'est essayer d'aller un peu plus loin et voir un peu quelles seraient les solutions alternatives à la démocratie représentative, quoi, comme on avait commencé à l'évoquer il y a 3 semaines, quoi, que le fait que cette démocratie représentative là elle fonctionne pas vraiment puisqu'on n'est pas, elle nous représente pas, quoi, clairement. Les dirigeants actuels ne représentent pas les intérêts du peuple. Enfin, tout simplement, on avait pris un exemple tout simple qui est que si ça représentait l'opinion du peuple et les intérêts du peuple, on n'aurait pas d'OGM ni de nucléaire, puisque 80% à peu près des gens sont contre. Donc voilà, ça c'est un petit exemple, mais après on pourrait développer sur plein de sujets cet échec de la démocratie représentative, quoi. Et puis voilà, après nous, je sais pas, en tout cas moi, personnellement, le problème que me pose aussi cette démocratie représentative, c'est qu'on se retrouve toujours à élire des chefs,
Et que voilà, en fait, nous, on aspirerait peut-être à un système politique qui aille au-delà de ça et qui soit organisé de façon un peu plus horizontale et un peu plus à la base, quoi, ou qui redonne vraiment le pouvoir au peuple, enfin, ce qui serait vraiment une démocratie, quoi. Donc voilà. ouais, je parle seul depuis tout à l'heure. Ouais. Je suis pas tout seul dans le studio. Hein.
Bah vas-y Pierre Guillaume. Ouais.
Pour répondre à ça, enfin c'est vrai que il y a une habitude, enfin qu'on a en nous depuis un certain nombre d'années, et puis peut-être pour la plupart d'entre nous depuis qu'on est né, même tous je crois, c'est effectivement de devoir toujours se référer à quelqu'un qui est hiérarchiquement supérieur à nous. Alors ça c'est pas seulement au niveau des élections, c'est pareil aussi au niveau du salariat où il y a l'employé et le patron. Et donc enfin moi je pense déjà que par rapport si jamais il y a peu de remise en question du mythe du chef ou alors du mythe du représentant, c'est aussi parce que depuis toujours on nous dit voilà, vous avez besoin du patron, vous avez besoin du représentant politique, alors que concrètement nous ici et d'autres ailleurs ont certainement pu vivre des formes de démocratie qui sont largement plus directes et largement plus horizontales. Alors moi par exemple j'ai un petit exemple, j'ai participé à des ateliers de réflexion, donc c'était dans certains rassemblements divers et variés, on va dire à tendance libertaire, même si le mot est toujours une étiquette un peu étrange et un peu flou, où là au lieu de prendre des décisions à un nombre énorme, genre plusieurs centaines de personnes, on se regroupait par atelier de réflexion avec une limite peut-être d'une trentaine ou d'une cinquantaine de personnes, et les décisions étaient prises dans cet atelier-là, avec la possibilité pour chaque personne d'agir en fait sur la décision. Et une fois que cette décision était prise, effectivement, une personne du groupe était choisie pour parler, pour donner la décision qui avait été prise dans le groupe, au groupe en général. Donc finalement, c'était non pas de faire comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire une fois tous les X années de voter pour quelqu'un qu'on ne rencontrera jamais, qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas les intentions, et qui a sous sa main des centaines, des milliers, peut-être plus de personnes, mais plus de voter pour un petit groupe d'individus. Dans un petit groupe d'individus pour après finalement relocaliser les décisions politiques. Enfin, je trouve ça intéressant cette idée de relocaliser les décisions politiques.
Ouais. On relocalise ou parce que j'ai.
Du coup, on va se relocaliser dans le studio ou on se délocalise
En fait, pour parler un peu de tout ça, de voter, pas voter, non, qu'est-ce qu'on propose comme alternative à la démocratie ? En fait, on a en ligne Kristen qui en fait a fait un travail qui allait à la rencontre des candidats. Et qui du coup en fait leur a posé un peu la question. Christine, tu nous entends ?
Oui, je vous entendais mieux tout à l'heure. Je vous entends très mal.
Et là tu nous entends ?
Ah oui, là c'est bien.
En tout cas, nous on t'entend.
Oui,
d'accord.
On dirait que t'es à côté.
Parce qu'on sait qu'il n'est pas.
T'es allé les rencontrer toi, Christine, et tu leur as posé la question de ce qu'ils pensaient.
Voilà, du coup c'était. Le but du jeu, voilà, c'était d'essayer de voir si c'était quelque chose qu'ils pouvaient comprendre. C'est-à-dire que vu que leur vie, là, surtout ces derniers mois, c'est de faire du racolage actif, voter pour moi, de voir leur réaction sur le fait qu'il y avait quand même un bon paquet de gens qui étaient assez insensibles à ça, voire que ça énervait ou que ça débectait complètement. Et du coup, les réactions, vous imaginez bien que du coup, ils essayent en fait de récupérer, c'est-à-dire qu'ils comprennent les gens qui sont dégoûtés de la politique, mais que quand même, à chaque fois, la réponse c'est la même. Quand même, il y en a bien un qui vaut le coup, c'est moi, quoi.
Mais du coup, par exemple, c'est Bérou, je crois, qui demande. La reconnaissance du vote blanc, en fait, dans son programme. Je sais pas si...
Ouais, je crois... Il y en a plusieurs qui ont parlé de ça.
Après, l'abstention, c'est peut-être différent aussi, quoi. L'abstention, du coup, tu fais même pas l'acte citoyen, quoi, qui est un peu sacralisé, comme, je sais pas.
Bah, je pense, enfin, du coup, moi, comment je vois les choses, c'est que des hommes politiques ou des femmes politiques peuvent pas, comprendre l'abstention.
Ouais, ni concevoir.
Sinon, tu te présentes pas, quoi. C'est que tu cautionnes complètement le système tel qu'il est. Le vote blanc, moi, pour moi, ça revient un peu au même, quoi. Sauf que tu fais la démarche et du coup, t'acceptes
le principe du vote, quand même, quoi.
Ouais.
Si tu te déplaces pour aller voter blanc.
Ouais, t'acceptes le principe du vote, quoi. Ou du coup, tu donnes ton avis sur ce qui se passe. Après, l'abstention, elle est aussi plus difficile à justifier pour plein de gens, quoi. Enfin, plus difficilement entendable.
Oui, parce que l'abstention, ça nécessite d'abord de remettre en cause le système en tant que système, quoi. En tant que système démocratique, entre guillemets, quoi. Enfin, démocratique, démocratie représentative, quoi. Donc forcément, il y a beaucoup de gens pour qui cette démarche-là, elle est complètement inconcevable, quoi. Enfin, ils n'y ont jamais pensé, parce que forcément, depuis qu'on est tout petit, on nous conditionne à nous dire qu'on est des citoyens, et qu'être citoyen, c'est aller voter, c'est désigner des chefs, des représentants, etc., de s'en remettre, d'abandonner toujours son pouvoir, quoi. En fait, c'est ça, cette notion de citoyen. Et du coup, on nous bassine depuis qu'on est à l'école maternelle. Comment ?
C'est la notion de citoyen pour eux, quoi.
Oui, c'est ça. Oui, mais c'est un peu. Oui, c'est ça. C'est la notion de citoyen quelque part. Enfin, on n'existe que en tant que participant à cette grande mascarade, j'allais dire. Enfin, à ce grand cirque là, comme juste apportant notre voix et déléguant notre pouvoir à tout ce système, quoi. Voilà. Alors que, enfin, moi, je me considère pas spécialement comme un citoyen, quoi. Enfin, même pas du tout. Moi, je considère que je suis une personne. Je suis un individu, j'ai un pouvoir sur ma propre vie, enfin, j'essaie de l'avoir, j'essaie de le retrouver, et je suis pas du tout un citoyen, quoi, en tant qu'un élément de ce système qui va déléguer son pouvoir et qui va se dissoudre dans ce système-là, quoi.
Ouais. Après, ça a une autre histoire aussi, enfin, être citoyen, c'est participant de la cité, enfin, c'est pas.
Ouais,
c'est
ouais.
Un terme qui peut aussi être récupéré, quoi.
Ah, bien sûr, oui, oui.
Le principe, je trouve, c'est sur le truc de l'abstention. C'est se demander si une constitution telle qu'elle est, qui reconnaît pas qu'à un certain pourcentage d'abstention, les élections elles sont pas validées, ça pose question, quoi.
Oui, complètement.
C'est comme si le système, de toute façon, est de fait comme ça, et peut pas être bloqué.
C'est naturel, quoi. Enfin, comme s'il était naturel, ouais, et qu'il ne reconnaissait pas une possible contestation du système, quoi. Enfin, le système n'intègre pas cette contestation-là, quoi. Oui, Christine.
Un exemple, par exemple, en septembre dernier, Alain Juppé, qui a été élu à la ville de Bordeaux avec, il y avait plus de 70% d'abstention. du coup,
ça les a pas dérangés, quoi.
Sur la légitimité que ce bonhomme-là a d'être élu, parce qu'il a été élu avec genre 52% des 30% de votants. Donc ça fait plus grand monde à l'échelle d'une ville. Et en même temps, il reste en place parce que. Aussi, je pense, du coup, j'ai rencontré pas mal de gens qui militent pour ce qu'ils appellent de l'abstention active, c'est-à-dire que en même temps, leur montrer que tu veux pas les laisser faire, quoi. Et que, par exemple, on peut imaginer que si à Bordeaux, les 70% de gens qui n'étaient pas allés voter s'étaient décidés à occuper la mairie.
Ça aurait tout changé, ouais.
Voilà.
Mais je pense que c'est hyper important, ça.
Ouais, parce que là, on retrouve la notion peut-être de citoyen, même si c'est pas le mot. C'est que du coup, tu te réappropries aussi, comme tu disais, en tant que personne, ton pouvoir sur ta propre vie et tout ça. Et que du coup, tu te dis, bah, je vais pas voter, mais autour, je fais en sorte.
Tu te retrouves pas tout seul chez toi en tant qu'abstention.
Non, non, c'est ça, c'est.
Se retrouve, ça fonctionne.
C'est ça, exactement. Ouais, je pense que c'est ça la démarche. Ouais. Il y a Pierre-Guillaume qui veut parler. On ne laisse pas parler depuis tout à l'heure, hein, on est méchant.
Enfin, je vais pas résumer ce qui vient d'être dit, mais en fait, je viens de rebondir. C'est vrai que le problème de l'abstentionnisme révolutionnaire, on l'appelle aussi abstentionnisme actif, comme vient de le dire Christine, c'est que pour les représentants politiques, ceux qui vivent finalement du système de vote, ça les embête pas du tout, parce qu'il y a aucune distinction qui est faite entre l'abstentionniste qui s'en fout de la politique et l'abstentionniste qui a des raisons de s'abstenir, quoi. Donc ça, je pense que c'est intéressant, enfin, de voir que l'abstentionnisme aujourd'hui, et les abstentionnistes, on n'entend pas leur voix, on ne veut pas les écouter, justement parce qu'ils rentrent pas dans un cadre d'un système, ils ont pas de programme finalement, les abstentionnistes, ouais. Ils ont pas de représentants, donc voilà, ça y est, alors on peut pas les écouter.
Et en même temps, je pense que, mine de rien, quelqu'un qui va pas voter parce que il est allé se balader ce jour-là et qu'il avait autre chose à faire un dimanche et sans conviction réelle, sans une réflexion, mine de rien, c'est qu'il est pas touché non plus par par les élections, parce qu'on nous fait quand même un topo médiatique là depuis des mois. Enfin, on a intérêt à aller voter, je pense, quoi. Mmh. Et que du coup, enfin, mine de rien, c'est ah, il y a une visée. Ah, et ben salut. Ah non. C'est un essai. Je croyais que c'était une blague, que tu voulais me censurer.
C'est convivial, mutin.
Bah, du coup, je vais peut-être continuer sur ma lancée. En fait, c'était par rapport à la représentation. Enfin, concrètement, il y a les politiques nous disent nous allons vous représenter. Mais je pense que ce qui est fait actuellement dans la société, c'est pas une délégation de pouvoir, mais c'est carrément un don de pouvoir. C'est-à-dire qu'on va pas voter pour quelqu'un pour qu'il nous représente, mais on va voter pour quelqu'un pour nous donner tout le pouvoir qu'on peut avoir. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence de penser ça? Bon, déjà, de se rendre compte que les hommes politiques ne travaillent que qu'en cercle fermé. Les décisions sont prises par quelques milliers de personnes sur l'ensemble de la population française, que eux prennent des décisions et que les citoyens ils doivent attendre X années pour commencer à peut-être finalement prendre la parole, parce que si on n'a jamais vu des citoyens, ou très rarement des citoyens, se regrouper et se dire voilà, je veux imposer une décision aux hommes politiques, je veux que ces hommes politiques prennent une décision dès maintenant. Alors ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que si jamais on est dans l'optique de dire bah voilà, moi en tant qu'abstentionniste, je refuse de donner mon pouvoir, de céder mon pouvoir, ben ça fait que dans la vie quotidienne, on se rend compte qu'on a un pouvoir politique qui existe, pas un pouvoir autoritaire, mais un pouvoir finalement pour se réapproprier les choses de la vie. Enfin, dans les textes qu'on avait lus, Le criminel c'est l'électeur ou La grève des électeurs, c'est un peu ça qui est dit. Les deux parlent du fait que voilà, on nourrit celui qui nous bat, ou alors on vêtit celui qui nous bat. Et si jamais dans la vie quotidienne on arrive à se regrouper ensemble à un niveau local pour finalement vers plus d'autogestion, pour produire nous-mêmes, s'organiser pour produire nous-mêmes nos vêtements et notre nourriture, là ça a un sens concret, et cet abstentionnisme là devient proprement révolutionnaire.
Bravo, voilà. Pierre Guillaume. Merci.
Donc c'est reprendre le pouvoir sur nos propres vies au lieu de le filer à des gens qui vont l'utiliser à leur propre intérêt, quoi. On revient toujours à ça, quoi.
Se reposer,
ouais. Ouais. Le principe, c'est peut-être de reprendre la parole un peu.
Ouais, c'est ça.
Tous les gens qui nous kidnappent.
D'accord. Bah du coup, ça commence peut-être par ne pas leur donner plus que ce qu'ils ne l'ont déjà, quoi, ces gens-là, quoi. La parole.
Conscience qu'on peut le faire aussi, quoi. Et peut-être que Pierre va du coup nous montrer qu'on voilà. peut prendre la parole.
C'est la petite surprise du jour, en fait.
Oui.
On a ramené un énergumène de Bellevue qui va nous montrer ses talents, je crois.
Et Christelle, donc
du coup, ouais, il y a ouais.
Tu nous entends, Christelle, ou...
Oui, ouais. Peut-être, là, oui.
Ouais, mais Hélène, je crois qu'on t'entend. Nous non plus, on t'entend pas hyper bien, en fait.
Ah ouais.
Parce qu'en fait, on est tellement nombreux dans le studio qu'on occupe tous les côtés, tous les micros.
Bah, là, c'est bon.
Donc du coup, voilà, bah Christelle, t'es toujours avec nous, t'écoutes?
Oui, carrément.
Du coup, voilà. Tu veux raccrocher ou on attend la fin de la musique?
On va le garder, Christelle.
Bah ouais.
Puis j'aimerais bien, hors antenne, que vous preniez mon adresse pour m'envoyer des photos dédicacées.
D'accord, pas de problème, okay. tu ne quittes pas, Christelle. Du coup, on va laisser un petit micro à Pierre. Pour qu'il nous... Tu préfères le garder sur le pied ou tu le prends?
Sur le pied.
Sur le pied, allez, c'est parti. Donc là, normalement, il y a une petite musique qui va partir. Bon, c'est un peu compliqué techniquement. Peut-être qu'on va envoyer un petit morceau de musique pour se détendre un peu, parce que je crois qu'on a dit des choses qui sont bien lourdes et qui demandent à réfléchir un peu, quoi. Allez, c'est reposer un peu tout ça, 2 minutes.
Et puis on écoutera. Bah, Pierre, du coup, on t'écoute tout à l'heure.
Ouais, on se prépare techniquement parce que.
C'est bon là maintenant?
Le show que va nous faire Pierre, là, ça nécessite un montage technique, là.
Bon, bah, c'est bon.
Bon, apparemment, ça le fait. C'est parti.
Yeah.
si le rap est un poison, moi je suis l'antidote. Si le rap est un gros poisson, moi je couste sans ses potes. T'as pas compris, c'est que j'y FKY. Tu veux baiser le 2-9-200, c'est mal compris. Alors avance, sur le beat, le rythme et la cadence. Ça va tellement bien qu'on continue jusqu'à en être en transe. Sur ce morceau, le rap est mis en travaux. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Attends, je vais te faire un topo. Du rap, du sexe, Al-Qaïda, du rap au mic. Avoue qu'on est là pour foutre le zbeul. Ça perce, le beat et tout est bien branché. Fils de pute, tu veux me débrancher. Avec le micro, je vais te brocher. La zicomique, je crois que tu peux pas tester. 200 000 volts au corps vocal sur scène. Je te mets ta grosse fessée. Mec, t'es jaloux, va savoir. J'arrive plus vite qu'un jaguar. Tu veux me barrer la route, on t'a dénoncé. Mais moi, je copie mes rimes pépères comme si je recopiais l'énoncé. Tu joues le proxénète, je suis pas Galbec en 50 Cent. Avec le micro, je dégaine plus vite que je t'enchaîne. Écoute, y'a que dans le rap que je suis pas feignant. T'as entendu ou quoi? C'est E-X-I-L, Al-Qaïda du rap au mic. Je t'avais pas prévu, si c'est des faut pas déraper. Sinon, je t'envoie mes avions dans les tours, je mets du RAP. Moi, je kiffe rapper, mais aujourd'hui, y'a un petit problème. Je passe au terrain. Je passe au THC. Si, si, je passe au THC, allume le wing, je me pète la gamelle. Et va dire à l'hectare que j'ai retrouvé Ben Laden. C'est mon DJ. Moi j'ai pas de ses dents dans les bacs. J'ai même pas eu mon bac. Sur mon disque ou sur ma frappe, crie Al-Qaïda du rap. Si le rap est décédé, décédé. Non franchement pourquoi tu veux payer pour faire décéder? Non franchement tu devrais céder pour le RAP, HIP, HOP. Chopé, j'ai tout stocké, je vais vous choquer. Si le hip-hop est un space cake, fais-moi croquer. Al-Qaïda du rap au mic. Fais-moi smoker. À la voix, ils ont mes pas de la tisane. Vodka, jean, sky, breaker de fist, city, je te traumatise, man. Si le hip-hop serait ta ring de boxe, je serais Mac Tyson. Rien qu'au micro, sur un ring pour qu'on se tape. Sur mon disque ou sur ma frappe, crie Al-Qaïda du rap. 60-1, avec les blancs, les blacks. Les vieux MC cherchent des vocales, j'aperçois des flaques. 1, 2, 3, 4, Al-Qaïda du rap. Je prends pour un gangsta, mais mes oreilles n'apprécient pas. J'aurais pu baiser ta bitch dans mon local, mais je me fais pas repérer, car je suis recherché pour homicide vocal. Ils ont trouvé mes empreintes sur un micro, c'est l'arme du crime, et aujourd'hui ma prison est un studio. Rien qu'au micro, sur un ring pour qu'on se tape. Sur mon disque ou sur ma frappe, crie Al-Qaïda du rap. Si, si, toi-même tu sais, je représente BREST. Je suis venu ici pour pour toi-même tu sais, représenter la galère dans tous les quartiers.
Te présenter un peu et tout quoi.
Voilà, on a la parole, ouais, bah c'est reparti, on est de nouveau sur Mutin Mutine, dans le studio de Fréquence Mutine, 103.8. Et du coup, bah là on a accueilli Pierre qui est venu de Bellevue pour rapper en direct dans le studio. Et bah du coup Pierre, tu peux un peu nous expliquer un peu ce que tu fais, comment t'en es venu à rapper et voilà, qu'est-ce qu'il y a dans tes textes?
Bah moi, ça fait un mois que je rappe. Et j'ai fait déjà un an de clash sur des rappeurs parisiens, surtout. Et dans mes textes, bah, je dis pas, c'est pas du rap vulgaire, c'est plutôt du rap où je dis des choses sensées. Je fais des sons sur le rap commercial, sur la France d'en haut et la France d'en bas, sur la police, sur Sarkozy, sur la vie aussi, sur plein de choses. Et comment dire, moi je voudrais pas faire du rap commercial, gagner des sous avec avec mon rap quoi, ça m'intéresse pas. Donc voilà.
Et t'es tout seul ou t'as des copains, vous chantez à plusieurs ou...
Ouais, on est une équipe qui s'appelle Al-Qaïda du rap et on est trois. Il y a moi, Exil, il y a FKY et il y a Steph You. Et voilà quoi.
Ok, bah en tout cas, bonne chance pour la suite.
Ouais, bah merci. Hein.
Et puis, bon, on va s'écouter un petit morceau.
Voter FPR, empêcher tous les politaires. Moi j'irai voter à la fascisme. Je ne suis pas écologiste. Moi j'irai voter radical. Pour flasher le Front National. Et puis pour qui et puis pourquoi? De toute façon, ça ne changera pas. De toute façon, ça ne changera pas. Et allez, 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 à voter. N'importe quoi. De toute façon, je n'y crois pas. Et puis pour qui et puis pourquoi? De toute façon, ça ne changera pas. De toute façon, ça ne changera pas. Et
allez, allez, allez,
à voter.
Ben voilà, donc c'était les Sales Majestés, un morceau qui s'appelle À voter, je crois que vous avez déjà compris. Et ben voilà, on est de retour dans le studio, on a toujours Christiane au téléphone.
Oui.
Et puis du coup, ben là, ben, il nous reste 10 minutes, on va en profiter pour dire un peu des
si
choses.
Si vous voulez nous appeler, donner votre avis aussi, le numéro de téléphone. 16.
Est-ce que Fréquence Mutine se doit de respecter le temps de parole des candidats?
Je sais pas, mais tu viens de me couper la parole, j'allais donner le numéro de téléphone. C'est 02 98 05 09 11. Et après, je sais pas si on se doit de respecter le...
Parce que sinon, ce que j'ai entendu de vos émissions, il y a quand même un temps de parole de 95% pour les abstentionnistes.
C'est vrai. Mais les abstentionnistes ne sont pas un candidat pas vrai, officiel. Les abstentionnistes n'existent pas.
Je me pose encore la question. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'allais dire?
Vous avez entendu parler du candidat patate?
Ouais, ah oui. Voilà, un super voilà. Candidat. Et j'ai cru remarquer qu'il était à moins de 0,1% dans les médias, dans les grands médias. Donc il y a un manque de parité qu'on va peut-être pouvoir réparer en lui offrant 10 minutes là. Donc bah tu peux nous expliquer un peu qui est le candidat patate? Parce qu'il passe mal à la télé.
Le candidat patate, c'est le seul candidat qui ne se présente pas.
Ouais.
Et
qui du coup n'a pas touché 870 000 euros au moment du dépôt de sa candidature, dommage.
Non.
Ah ouais, parce que les autres ils touchent.
Ouais, les autres touchent 870 000 euros au moment où ils déposent leur parrainage. C'est pour ça qu'il y en a autant d'ailleurs. Et qu'ils se battent tous pour se présenter chacun pour soi.
Mais ces sous-là, ils doivent les réinvestir dans la campagne.
Dans la campagne, ouais. C'est-à-dire dans des gueuletons, dans des coups à boire. Voilà.
Ah ouais.
Ouais. Dans des billets d'avion pour partir dans le dom-tom aussi.
Ok.
Donc, du coup, le candidat patate, sans ses 870 000 euros, qu'est-ce qu'il fait, quoi?
Ben oui, je sais qu'ils ont tenté de déposer leurs 500 patates au Conseil constitutionnel, mais que la police les en a empêchés.
Ouais.
Comme quoi, hein, police nationale, ministre du capitaine.
Ouais. Donc la police n'aime pas les patates.
Ouais, voilà,
c'est ce qu'on doit retenir. Quoi. Ouais. Mais c'est des patates bio, j'espère.
Oui, et c'est garanti sans OGM, et oui, complètement bio.
D'accord.
Non, mais je crois qu'en fait, il y a des collectifs qui se sont lancés un petit peu partout en France, du candidat patate. Il y a un site internet, patate2007.org, qui évoque vachement mieux que je peux faire la candidature de patate. Mais en gros c'est justement une manière de tourner en dérision tout le cirque actuel. Et puis de parler de tous les autres champs possibles que de l'espèce de pourri qui nous est proposé. J'ai dit un grand mot.
Ouais, il y a la censure. Je crois que oui. On vient d'avoir un coup de téléphone du ministère de l'Intérieur là qui nous envoie des bips.
D'accord.
Ouais, c'est les nouvelles conditions maintenant. Ouais. Et du coup, pour en revenir un peu à ton travail à toi, parce qu'on en a quand même pas beaucoup parlé, je sais pas si les gens ils ont bien compris ce que tu fais, tout ça. Tu nous as dit que t'étais allé voir les candidats.
Ouais, en fait, du coup, je me sers des élections présidentielles comme prétexte pour parler de politique, parce que c'est quand même un moment qui canalise vachement de choses pour vachement de gens.
Ouais.
Et du coup, de profiter de tout ça pour parler au début, j'étais parti sur l'abstention, puis je me rends compte que justement ce débat entre aller voter ou pas aller voter, une fois qu'il est résolu, ou que même on s'est dit que même s'il n'était pas résolu, ça changeait pas grand chose, c'est du coup de parler de toutes les formes d'organisation qui sont possibles au-delà des élections et de ce qui nous est proposé, quoi. Il y a plein de choses qui peuvent sont par exemple vachement développées en Amérique latine ou autour des organisations caracoles, de plein d'autres choses que cette forme hyper hiérarchique qu'on a là. Enfin bref, donc voilà. Donc du coup, j'ai passé du temps dans les meetings électoraux au début, et puis maintenant c'est plus du temps à rencontrer des gens qui font plein d'autres choses. Vachement plus passionnante que ça, quoi.
Et tu nous entends toujours ou pas?
Oui.
Ok. Et du coup, c'est quoi les caracoles, tout ça? Tu peux expliquer un peu ou vaguement?
Eh ben, donc c'est des formes d'organisation du coup il y a pas de chef à proprement parler, avec pour prendre une image, c'est au lieu d'avoir la forme pyramidale qu'on peut avoir, caracoles, c'est du coup ça veut dire escargot.
Ouais. Okay.
Je sais pas s'il y en a qui parlent espagnol parmi vous.
Je sais pas non plus.
Et du coup c'est par exemple le fait de faire tourner le pouvoir, c'est-à-dire que sur certaines questions, quand il faut aller rencontrer d'autres gens qui font qui réfléchissent aussi à cette question-là ailleurs, mais il y a une personne qui est mandatée pour aller donner l'avis du groupe sur cette question-là, mais que sur une autre question, ça va être quelqu'un d'autre. Puis c'est des mandats, du coup, qui sont impératifs, c'est-à-dire que les personnes, elles sont nommées pour répondre à cette question-là, et non pas comme on peut le faire avec des députés, c'est-à-dire où on leur donne un peu un chèque en blanc pendant 5 ans. Là, c'est vraiment sur telle question. Ouais, la personne représente
les
gens.
C'est une question sur laquelle le groupe a débattu largement, ouais. Et j'imagine, quoi. Fin...
Voilà. Et du coup, il y a aussi pas mal de gens, ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique, mais il y a aussi vachement de gens en France qui essayent de prendre ce genre de fonctionnement et qui réfléchissent comme ça à des formes d'organisation possibles.
Ok. Et du coup, nous, par contre, on t'entend plus trop. Enfin, moi,
c'est
en
vrai?
Tout cas, je sais pas. Si, toi, ouais.
Ça va?
Ouais.
Ouais.
Ok.
Bon.
Bon, bah, moi, je vais arrêter de parler là. Je vais avoir un faux contact.
Et t'as des exemples au niveau de la France?
Oui, après, c'est des exemples qui sont soit dans des petits groupes, soit à l'état de réflexion, quoi.
Oui.
Des gens qui ont théorisé des modèles possibles d'organisation. qui pourrait fonctionner pour 60 millions d'habitants sans ce côté hiérarchique et pyramidal, quoi.
Donc t'en as rencontré des gens comme ça ?
Eh ouais.
Oh, ça existe. Et tu veux dire, ces gens-là, ils vont pas aller voter, alors ?
Eh ben non.
Oh. Oh. Pas bon citoyen.
Non, non.
Bon, et...
parce que pourtant, y en a qui m'ont répété, là, pendant la campagne, qu'il fallait vraiment aller voter pour celui qui était le plus proche de nos idées et tout ça.
Bah ouais, ouais.
Ouais, le moins, coup, le moins pire, quoi.
Du coup, plusieurs, t'as ta petite idée pour qui tu vas aller voter ou...
Comment ?
Toi qui, qui en a rencontré plusieurs, quand même, des présidentiables.
Oui.
Tu t'es fait une petite idée pour qui t'allais voter ou pas forcément la dire?
Ben, je dois dire que, alors si je dois comparer aux repas qui m'ont été offerts ou aux coups, Arlette Laguiller, je m'attendais à mousseux et cacahuètes et c'était même pire que ça, c'était rien du tout. François Bayrou...
Non, mais je voulais pas dire forcément...
dîner dans un resto 4 étoiles...
Non, mais je voulais pas demander forcément pour qui tu voulais voter.
On va pas s'embarquer dans ce jeu-là, parce qu'après, il va falloir respecter la parité, tout ça, et puis on va devoir chronométrer le nombre de secondes que tu passes à... Ouais.
C'est pour dire que, quand même, là où on m'a proposé le plus à boire, c'est les communistes et chez José Bové.
D'accord.
Après les comptoirs coloniaux de l'ère coloniale, les comptoirs idéologiques de l'ère atomique.
Encore une fois, mon stylo pleure à l'instar de l'encre, une haine suisse meurt, une mort violente subite gérée par nos dirigeants voleurs. Ville vilain, voleur, voler notre dernière goutte de sueur. Voilà le visage sombre et lugubre de l'Afrique à 7 heures. Seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, l'Afrique se meurt, tuée, pillée par nos dirigeants collaborateurs. C'est le seul mot pour qualifier ces adorateurs de Satan. Pourquoi vider notre sang, se comporter si avidement, confondre intérêt personnel et national, c'est décevant. Je suis déçu, le sous le seul sinistre de la pauvreté, c'est indécent. Ils vendent le pétrole du Congo, Nébocolons, qui organisent nos guerres afin de mieux gérer les filons. Au Sénégal, ils vendent l'eau, la télécom, le courant, t'es au courant, c'est courant. Notre économie, tu peux la comparer à un vieil au mourant. Tué par les mêmes des héritiers qui s'entretueront pour l'héritage, qui te feront croire que c'est pour le bien de la famille du clan. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. C'est encore ce système qui fait souffrir tous les descendants de Cam, géré par les propres fils de Cam, dirigé par les enfants de Cam. On a fait le tour de la question, voici la situation. Si on veut une évolution, il nous faut une putain de révolution. Révolution des mœurs, de la mentalité, de la morale, du comportemental, sinon les armes parleront et c'est fatal. Je crois qu'il y a assez eu de guerre, trop de gosses sont morts amers, en se demandant pourquoi tant de malédictions sur la terre mère. Déjà, ils nous imposent des systèmes politiques, forment l'élite, qu'ils rendent cyniques. Quand on donne le pouvoir, on t'y maintient, tu seras l'unique. Tant que tu nous vends le pétrole, le café, le cacao, tu seras en haut. On va bosser sur ta dette, toi y'a très beau négro. On va te dire toi, maison jolie à Paris, la France, la délivrance, beaucoup de wari wari. Toi signé papier du blanc, pas le cadeau du chef blanc. Toi très beau négro.
Merci ma commandeur.
Tu comprendras quand tu seras grand. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. SOS, SOS, Awali lance un SOS. SOS pour ces terres qui se meurent et ses fils en détresse. SOS pour toutes nos matières premières, pour toutes nos richesses. SOS pour que nos enfants ne vivent plus tout ce stress. Yes, make God bless Africa quand se sort du caca. L'image est sale et puante, mais c'est la seule qui reflète le cas. Africa, on t'occupe, mais ton diagnostic est délicat. La seule solution, c'est une révolution dans tous les cas. J'aimerais que ce texte soit une lettre adressée à tous nos présidents. Qu'ils comprennent que les jeunes paniquent, que le boom est imminent. Pensez à nous, pensez à vous, pensez à ceux qui viendront après nous. Pensez, agissez, sinon on le fera nous, à la limite, l'argent volé, planqué dans vos comptes en Suisse. Investissez-le dans vos pays, faites bosser vos fils, méfiez-vous. Méditez le syndrome Mobutu, personne n'est à l'abri. C'est tout, le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner.
révolutionné. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner.
Si nous ne prenons garde, nous risquons de perdre et la liberté de l'homme et l'indépendance de notre continent.
Voilà, bah c'est un morceau de Didier Awadi, qui est un chanteur, rappeur sénégalais, d'origine sénégalaise, je crois qu'il vit en France peut-être, enfin bon, j'ai pas trop d'infos là-dessus. Et bah du coup, là on a un peu du temps finalement, parce que apparemment l'émission d'après est pas prête à commencer tout de suite. Et du coup, on voulait lire un texte, en fait, bah voilà, enfin ça tombe bien, parce qu'on était un peu à l'arrache, un peu à la bourre là, surtout sur le déroulement de l'émission. Et on avait prévu un texte à vous lire, sur justement qu'est-ce qu'on peut faire, enfin un peu l'alternative au vote, en quelque sorte, et pas simplement ne pas voter comme forme d'expression politique, mais peut-être aller un peu plus loin.
Ouais, et puis questionner les choses aussi un peu, quoi.
Voilà.
Donc c'est pas, après, parce que les discours-là qu'on peut avoir peuvent être pris de façon assez brutale, et c'est pas une façon de penser ou de percevoir les choses qu'on veut imposer du tout, quoi. Enfin, c'est juste amener un peu à questionner les choses et à se fournir, enfin, comme on disait au départ, quoi, les outils pour réfléchir et se demander c'est quoi qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire un peu, quoi.
Voilà. Je sais pas si ça a été très bien perçu pendant cette émission ou on y a peut-être été un peu fort, mais voilà, du coup, on voulait rehausser un peu le niveau après les petits fours et le mousseux des uns et des autres. On voulait rehausser un peu le niveau en vous lisant un texte de Pierre Kropotkin, qui est un théoricien, on va dire anarchiste, pour aller vite, du 19e, début 20e, voilà, qui s'appelle L'esprit de révolte. En fait, c'est un texte où il analyse un peu l'émergence historique de la Révolution française, sauf que là, bon, on va pas vous le lire en entier, et on va garder juste les passages qui sont un peu généraux sur un peu comment naissent les révolutions, et voilà, tout ce qui n'est pas forcément lié directement au XVIIIe siècle. Voilà.
C'est moi qui commence, quoi, du coup.
Bah, si tu veux.
D'accord.
Ou sinon, je peux commencer.
Non, je veux bien commencer.
Alors, c'est parti.
Dans la vie des sociétés, il est des époques où la révolution devient une impérieuse nécessité, où elle s'impose d'une manière absolue. Des idées nouvelles germent de partout, elles cherchent à se faire jour, à trouver une application dans la vie, mais elles se heurtent continuellement à la force d'inertie de ceux qui ont intérêt à maintenir l'ancien régime. Elles étouffent dans l'atmosphère suffocante des anciens préjugés et des traditions. Les idées reçues sur la constitution des États, sur les lois d'équilibre social, sur les relations politiques et économiques des citoyens entre eux, ne tiennent plus devant la critique sévère qui les sape chaque jour, à chaque occasion, dans le salon comme dans le cabaret, dans les ouvrages du philosophe comme dans une conversation quotidienne. Les institutions politiques, économiques et sociales tombent en ruine. Édifices devenus inhabitables, ils gênent. Il empêche le développement des germes qui se produisent dans ces murs lézardés et naissent autour de lui. Un besoin de vie nouvelle se fait sentir. Le code de moralité établi, celui qui gouverne la plupart des hommes dans leur vie quotidienne, ne paraît plus suffisant. On s'aperçoit que telle chose, considérée auparavant comme équitable, n'est qu'une criante injustice. La moralité d'hier est reconnue aujourd'hui comme étant d'une immoralité révoltante. Le conflit entre les idées nouvelles et les vieilles traditions éclate dans toutes les classes de la société, dans tous les milieux, jusque dans le sein de la famille. Le fils entre en lutte avec son père. Il trouve révoltant que son père trouvait tout naturel durant toute sa vie. La fille se révolte contre les principes que sa mère lui transmettait comme le fruit d'une longue expérience. La conscience populaire s'insurge chaque jour contre les scandales qui se produisent au sein de la classe des privilégiés et des oisifs, contre les crimes qui se commettent au nom du droit du plus fort ou pour maintenir des privilèges. Ceux qui veulent le triomphe de la justice, ceux qui veulent mettre en pratique les idées nouvelles, sont bien forcés de reconnaître que la réalisation de leurs idées généreuses, humanitaires, régénératrices, ne peut avoir lieu dans la société telle qu'elle est constituée.
ils comprennent la nécessité d'une tourmente révolutionnaire qui balaye toute cette moisissure, vivifie de son souffle les cœurs engourdis et apporte à l'humanité le dévouement, l'abnégation, l'héroïsme sans lesquels une société s'avilit, se dégrade, se décompose. La machine gouvernementale chargée de maintenir l'ordre existant fonctionne encore. Mais à chaque tour de ses rouages détraqués, elle se bute et s'arrête. Son fonctionnement devient de plus en plus difficile. Et le mécontentement, excité par ses défauts, va toujours croissant. Chaque jour fait surgir de nouvelles exigences. Réformer ci, réformer ça, crie-t-on de tous les côtés. Guerre, finances, impôts, tribunaux, police, tout est à remanier, à réorganiser, à établir sur de nouvelles bases, disent les réformateurs. Et cependant, tous comprennent qu'il est impossible de refaire, de remanier quoi que ce soit, puisque tout se tient. Tout serait à refaire à la fois. Et comment refaire lorsque la société est divisée en deux camps, ouvertement hostiles ? Satisfaire les mécontents serait en créer de nouveaux. Incapables de se lancer dans la voie des réformes, puisque ce serait s'engager dans la révolution. En même temps, trop impuissants pour se jeter avec franchise dans la réaction. Les gouvernements s'appliquent aux demi-mesures, qui peuvent ne satisfaire personne et ne font que susciter de nouveaux mécontentements. Les médiocrités qui se chargent, à ces époques transitoires, de mener la barque gouvernementale, ne songent plus d'ailleurs qu'à une seule chose, s'enrichir en prévision de la débâcle prochaine. Attaqués de tous les côtés, ils se défendent maladroitement, ils louvoient, ils font sottise sur sottise, et ils réussissent bientôt à trancher la dernière corde de salut. Ils noient le prestige gouvernemental dans le ridicule de leur incapacité. À ces époques, la révolution s'impose. Elle devient une nécessité sociale. La situation est une situation révolutionnaire.
Lorsqu'une situation révolutionnaire se produit dans un pays, sans que l'esprit de révolte soit encore assez éveillé dans les masses pour se traduire par des manifestations tumultueuses dans la rue ou par des émeutes et des soulèvements, c'est par l'action que les minorités parviennent à réveiller ce sentiment d'indépendance et ce souffle d'audace sans lesquels aucune révolution ne saurait s'accomplir. Homme de cœur, qui ne se contente pas de paroles, mais qui cherche à les mettre en exécution, caractères intègres pour qui l'acte fait un avec l'idée, pour qui la prison, l'exil et la mort sont préférables à une vie restant en désaccord avec leurs principes. Hommes intrépides, qui savent qu'il faut oser pour réussir, ce sont les sentinelles perdues qui engagent le combat, bien avant que les masses soient assez excitées pour lever ouvertement le drapeau de l'insurrection et marcher les armes à la main à la conquête de leurs droits. Au milieu des plaintes, des causeries, des discussions théoriques, un acte de révolte individuel ou collectif se produit, résumant les aspirations dominantes. Il se peut qu'au premier abord, la masse soit indifférente. Tout en admirant le courage de l'individu ou du groupe initiateur, il se peut qu'elle veuille suivre d'abord les sages, les prudents, qui s'empressent de taxer cet acte de folie et de dire que les fous... que les fous, les têtes brûlées, vont tout compromettre. Ils avaient si bien calculé, ces sages et ces prudents, que leur parti, en poursuivant lentement son œuvre, parviendrait dans 100 ans, dans 200 ans, 300 ans peut-être, à conquérir le monde entier. Et voilà que l'imprévu s'en mêle. L'imprévu, bien entendu, c'est ce qui n'a pas été prévu par eux, les sages et les prudents. Quiconque connaît un bout d'histoire et possède un cerveau tant soit peu ordonné, sait parfaitement d'avance qu'une propagande théorique de la révolution se traduit nécessairement par des actes, bien avant que les théoriciens aient décidé que le moment d'agir est venu. Néanmoins, les sages théoriciens se fâchent contre les fous, les excommunient, les vouent à l'anathème. Mais les fous trouvent des sympathies. La masse du peuple applaudit en secret à leur audace, et ils trouvent des imitateurs. À mesure que les premiers d'entre eux vont peupler les geôles et les bagnes, d'autres viennent continuer leur œuvre, les actes de protestation illégale, de révolte et de vengeance se multiplient. L'indifférence est désormais impossible. Ceux qui, au début, ne se demandaient même pas ce que veulent les fous, sont forcés de s'en occuper, de discuter leurs idées, de prendre parti pour ou contre. Par l'effet qui s'impose à l'attention générale, l'idée nouvelle s'infiltre dans les cerveaux et conquiert des prosélytes. Tel acte fait en quelques jours plus de propagande que des milliers de brochures. Surtout, il réveille l'esprit de révolte, il fait germer l'audace. L'ancien régime, armé de policiers, de magistrats, de gendarmes et de soldats, semblait inébranlable, comme ce vieux fort de la Bastille qui lui aussi paraissait imprenable aux yeux du peuple désarmé. Accouru
sous ses hautes murailles garnies de canons, prêts à faire feu. Mais on s'aperçoit bientôt que le régime établi n'a pas la force qu'on lui supposait. Tel acte audacieux a suffi pour bouleverser, pendant quelques jours, la machine gouvernementale, pour ébranler le colosse. Telle émeute a mis sans dessus-dessous toute une province, et la troupe, toujours si imposante, a reculé devant une poignée de paysans armés de pierres et de bâtons. Le peuple s'aperçoit que le monstre n'est pas aussi terrible qu'on le croyait. Il commence à entrevoir qu'il suffira de quelques efforts énergiques pour le terrasser. L'espoir naît dans les cœurs, et souvenons-nous que si l'exaspération pousse souvent aux émeutes, c'est toujours l'espoir de vaincre qui fait les révolutions. Le gouvernement résiste, il s'évite avec fureur. Mais si jadis la répression tuait l'énergie des opprimés, maintenant, aux époques d'effervescence, elle produit l'effet contraire. Elle provoque de nouveaux faits de révolte, individuelle et collective. Elle pousse les révoltés à l'héroïsme. Et de proche en proche, ses actes gagnent de nouvelles couches, se généralisent, se développent. Le parti révolutionnaire se renforce d'éléments qui, jusqu'alors, lui étaient hostiles, ou qui croupissaient dans l'indifférence. La désagrégation gagne le gouvernement, les classes dirigeantes, les privilégiés. Les uns poussent à la résistance à outrance, les autres se prononcent pour les concessions, d'autres encore vont jusqu'à se déclarer prêts à renoncer pour le moment à leurs privilèges, afin d'apaiser l'esprit de révolte, quitte à le maîtriser plus tard. La cohésion du gouvernement et des privilégiés est rompue. Les classes dirigeantes peuvent essayer encore de recourir à une réaction furieuse, mais ce n'est plus le moment. La lutte n'en devient que plus aiguë, et la révolution qui s'annonce n'en sera que plus sanglante. D'autre part, la moindre des concessions de la part des classes dirigeantes, puisqu'elle arrive trop tard, puisqu'elle est arrachée par la lutte, ne fait que réveiller davantage l'esprit révolutionnaire. Le peuple, qui, auparavant, se serait contenté de cette concession, s'aperçoit que l'ennemi fléchit. Il prévoit la victoire, il sent croître son audace, et ces mêmes hommes qui, jadis écrasés par la misère, se contentaient de soupirer en cachette, relèvent maintenant la tête et marche fièrement à la conquête d'un meilleur avenir. Enfin, la révolution éclate, d'autant plus violente que la lutte précédente a été plus acharnée. Voilà, c'était un texte de Pierre Kropotkin qui s'appelle L'esprit de révolte. Enfin, c'était le début du texte, après ça continue. Voilà, on vous a lu simplement le début.
1914 quand même.
Voilà, il a écrit en 1914. Puis ça raconte en fait la révolution de 1789, je vais y arriver. Voilà, on va peut-être s'écouter un petit morceau de musique avant de vous dire au revoir et dire au revoir à tout le monde.
Ok, c'est parti.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit. Les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie. Le temps cède au supermarché. Le temps payé ne revient plus. La jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus. La jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé mais commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repère de curé, ni de marchands, de policiers. Au vent qui sème la tempête se récoltent les jours de fête. Au vent qui sème la tempête se récoltent les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État.
pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats.
Voilà, on est de retour sur Mutin Mutine. Du coup, je te laisse la parole, Yoram, peut-être.
Ouais, bah du coup, bah là, on s'est écouté un petit morceau que je trouve moi assez fort et vachement chouette, voilà, de chanté par Serge Géroyo, qui s'appelle La vie s'écoule, la vie s'enfuit.
Je crois qu'il faudrait voilà, que tu mettes plus d'énergie dans ta voix si tu veux qu'on fasse la révolution.
Ouais, mais en même temps, ouais, mais là c'était un peu, ouais.
C'était dans le ton en fait.
Ouais, c'était dans le ton et puis apaisé un peu avec après toute cette période de surexcitation là en ce moment général. Du coup, c'est bien aussi de pouvoir se poser de temps en temps et se poser pour réfléchir.
Ouais, et puis moi je trouve ça bien de pouvoir diffuser des textes comme ça aussi, parce que dans le flux continu qu'on entend à la radio ou à la télé, on est pas trop dans la norme, quoi. Ouais. Ça fait c'est pas forcément évident sûrement de se concentrer quand on pense aux gens qui écoutent, quoi. Mais je pense que c'est important des fois de prendre le temps, comme tu dis, comme ça, quoi.
Ouais, et puis surtout que ouais, ça nécessite une réflexion, enfin une grande comment dire disponibilité pour la réflexion, puisqu'on n'est pas, c'est une réflexion qui se situe pas dans les cadres qu'on nous impose d'habitude, où il s'agit de choisir entre l'un ou l'autre, entre deux solutions ou 12 solutions qu'on nous propose d'avance, et où il faut choisir la moins pire, parce que pour tout le monde ça se résume à ça. Et là, on essaie de s'élever un petit peu et de réfléchir à quelque chose qui correspond pas au fonctionnement dont on a l'habitude, donc forcément voilà. Ça demande un petit peu de se poser et de sortir un petit peu de ce rythme aussi qu'on nous impose, quoi. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a un rythme là depuis, depuis je sais pas quand, parce que finalement c'est en permanence, quoi. Il y a un rythme qui est fait pour que les gens ne réfléchissent pas et ne prennent pas de recul par rapport aux images dont on les gave ou toutes les infos qu'on reçoit en permanence. Voilà, donc c'était un peu notre démarche et c'est cool parce qu'aujourd'hui on avait un peu plus d'une heure, donc ça tombait bien.
Merci.
Ouais.
Et en fait, on voulait parler, avant d'envoyer une petite musique et de se voir la semaine prochaine, normalement, d'un rendez-vous qui a lieu, tu nous l'annonces, du coup, Vanessa?
Ouais, alors qu'il y a rendez-vous demain au Radeau. C'est une exposition de photos de cellules de prison qui est faite par l'association Génépi et suivie d'un concert de Jean-Claude Lalanne. Alors venez nombreux. La rue, c'est à côté de la rue...
C'est rue Bruat.
C'est rue Bruat.
Ouais, rue Bruat, voilà.
Au numéro, je sais plus. 47.
47 rue Bruat. El Rado, c'est des gens bien avec qui on va faire une émission bientôt.
Et il y a du coup, c'est à partir de
19h.
Merci.
Donc à demain, au Rado.
Voilà. Et puis plein d'énergie pour la révolte.
Et n'oubliez pas, soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre.
C'est tout simple, c'est une phrase de la Boétie.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, chérie de mon enfance, bercée de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur.
de mon enfance, bercé de tant d'insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur, mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.
Dis-leur que ça tape, dis-leur à ta façon, voilà c'est de la patate.
Hey, debout, debout là-dedans, motive tes troupes, ta clique, on lève le camp, dis-leur qu'on veut pas de commentaires, que des combattants, dis-leur